Merci, parce que Seigneur, ce matin encore, nous voulons être à l'écoute de ta parole, afin qu'elle puisse toucher nos cœurs et, Seigneur, nous transformer de gloire en gloire. À salut, Père, que nous puissions mieux te connaître et mieux te servir. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite dans 2 Corinthiens à ouvrir vos Bibles dans... La lettre aux Corinthiens, la deuxième au chapitre 4 et au verset 4. Verset 3 dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Une deuxième lecture se trouve dans Éphésiens au chapitre 4 aussi, mais au verset 22. On va lire à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire à vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence pour revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et on va tourner dans la première épître aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens 1, et on va lire le verset 17 et le verset 18, 1 Corinthiens 1, 17 et 18. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Vous savez que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, hein, pour annoncer la bonne nouvelle. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés les puissances de Dieu. Et un dernier passage dans Romains 8, au verset 17. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Je relis ce verset. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc, vous voyez les deux aspects de notre filiation avec Dieu, enfant et héritier. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Sachant que Christ est venu en tant qu'homme pour revêtir notre nature et être les prémices de la nouvelle humanité. Donc nous sommes co-héritiers avec ce que Jésus a fait dans cette nouvelle humanité, ce nouvel Adam, cette nouvelle nature. Si toutefois, vous voyez, il y a quand même un si toutefois, donc il y a une condition à cette réalité que nous venons de lire, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. C'est ce matin, je voudrais mettre l'accent justement sur cette, ce qu'on appelle un paradoxe. Vous voyez, il faut souffrir et être glorifié. C'est deux choses tout à fait opposées. Être glorifié, c'est vraiment être vivre dans, voilà, dans la gloire. Et souffrir, c'est souffrir. Et cette difficulté à vivre les deux choses en même temps, on cherche à vivre l'un et d'autres cherchent à vivre l'autre, hein, souvent pour obtenir la faveur de Dieu, Hein, ce sont les deux tendances, mais il faut vivre les deux, souffrir et être glorifié. Et ça, c'est très difficile à accepter d'une part et également à comprendre. Je vous invite à la prière. Seigneur, que cette parole ce matin puisse être clarifiée dans nos cœurs afin que nous puissions la mettre en pratique, Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je n'ai plus d'enseignement de fond à vous apporter, en tout cas bon, pour l'instant. Donc ce sera un approfondissement de certains points là ce matin. C'est réapprofondir et mettre en pratique ce qu'on a effleuré la semaine dernière, hein, dans le cadre aussi de l'histoire. Hein. J'ai essayé de mettre en perspective l'histoire, parce que le christianisme s'inscrit dans l'histoire. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose qui est dans une mythologie. Le mythe, c'est lié à la mythologie, donc une sorte de vérité qui est inscrite dans une culture, puisque chaque culture a sa mythologie, inscrite dans une culture et qui veut exprimer quelque chose d'éternel. L'histoire, le christianisme n'est pas un mythe, n'est pas une mythologie, c'est une histoire réelle. Qui s'adresse à nous en tant qu'êtres réels. Donc il faut s'inscrire dans la réalité. Et cette réalité, nous la vivons par la foi. Et la semaine dernière, je vous ai dit que cette foi est paradoxale. Donc on va voir un petit peu ce que veut dire ce terme de paradoxal qui ne nous est pas familier, moi non plus, ça ne l'était pas, mais je vais essayer de bien le clarifier beaucoup mieux aujourd'hui. Par exemple, vous voyez, là on parle de souffrance et de gloire, glorifier, souffrir. Ça c'est paradoxal, c'est quelque chose, on va le voir tout à l'heure en quoi ça consiste. La mort et la résurrection, hein. Vous voyez, très souvent dans l'Évangile, tout à l'heure on l'a lu, hein, quand nous devons mourir à notre vieille nature, donc mourir et ressusciter. Nous allons ressusciter avec Christ. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de fait opposé entre la mort et la résurrection. Pourtant, les deux réalités ne sont pas juste pour Jésus, c'est aussi pour nous, puisque nous sommes des petits Christ, nous sommes des chrétiens. Et nous devons aussi résoudre ce paradoxe, mort, ressuscité, perdre, trouver, comme on le verra dans Matthieu 16, 24. Ce qu'il faut comprendre dans la foi, hein, et je relis ce passage de la foi hein, sur cette version-là, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, c'est l'attestation de choses qu'on ne voit pas. C'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Et c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste, etc. Et ensuite, après, il y a tout le développement de la foi. Donc, ce matin aussi, dans ces différents versets, vous l'avez peut-être remarqué, on a beaucoup évoqué l'aspect de la vérité. Vérité. C'est aussi une perplexité qui a été l'objet de Jésus et de Pilate, lorsqu'il lui a dit, mais qu'est-ce que la vérité? Puisque Jésus lui a dit, voilà, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et Pilate de lui répondre, mais qu'est-ce que la vérité? C'est vrai que la vérité est quelque chose qui préoccupe chaque être humain. Chaque être humain normal, hein. Je ne parle pas des gens anormaux, mais des gens normaux. Et donc on cherche tous la vérité, mais la plus grande sagesse qui est enseignée dans le monde, c'est de la chercher sans jamais la trouver. Vous voyez, ça c'est la sagesse la plus élevée. Or, le christianisme dit qu'on peut trouver la vérité, parce qu'elle est dans une personne, c'est Jésus. Jésus incarne la vérité, Jésus est la vérité. Et c'est toute la différence encore entre cette sagesse du monde et la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu nous fait découvrir les choses, enfin, pas simplement nous allécher par des beaux questionnements de la vie. Qu'est-ce que la vérité, hein? C'est comme si Jésus, tu prétends avoir la vérité. Il se trouve que Jésus incarnait la vérité et que Pilate ne le voyait pas. Mais comme je vous le dis, la sagesse du monde empêche d'atteindre la sagesse de Dieu, parce qu'elle est totalement à l'opposé, elle ne peut pas se concevoir naturellement, étant donné que la sagesse du monde, c'est de jamais la trouver, la vérité, c'est tout le temps de la chercher et de creuser, de creuser, de creuser, de creuser la vérité. Voilà. Alors, pour bien comprendre ce matin le message aussi, c'est de comprendre que la vérité est, non pas égale, mais est équivalent à la réalité. Réalité. Alors, c'est quoi la réalité, justement? C'est différent d'une illusion. La réalité, c'est quelque chose que je peux toucher, qui ne bouge pas, qui sera toujours pareil, sur lequel il y a une stabilité. Alors que l'illusion, c'est comme les mirages dans le désert, vous avez l'impression de voir une oasis, et puis au fur et à mesure que vous avancez, elle disparaît au moment où vous arrivez, parce que c'est un reflet, c'est un phénomène physique qui fait que, en plein désert, vous voyez de l'eau. Il y en a qui ont vu ça déjà, ce phénomène-là? C'est pas étrange, ouais, ceux qui ont été dans le désert. Voilà, c'est intéressant, hein, de voir de l'eau, carrément. Dans le désert, quoi, alors que ça n'existe pas. Allez, c'est des phénomènes physiques de voilà. Et ça s'appelle une illusion. Et l'illusion, c'est pas la réalité. L'illusion, c'est une illusion. Vous savez que Satan, le prince de ce monde, est le prince de l'illusion. C'est un illusionniste. Il vous fait tout le temps montrer des mirages, comme l'histoire de la vérité, qui est une qu'on ne trouve jamais, qui est montée au niveau d'une sagesse. Eh bien, avec la foi, eh bien, on peut toucher la réalité, ce que Dieu a créé, ce qui est éternel, ce qui ne change pas, ce qui ne bouge pas, ce qui demeure. Voyez? Et c'est ça que nous voulons. Pas simplement au niveau physique, hein, mais aussi au niveau relationnel. Dans nos relations, nous voulons que nos relations soient éternelles. Moi, ce que je veux, c'est que tous, on se rencontre ensemble dans le royaume de Dieu, pour que nous puissions continuer à vivre ensemble. Ce n'est pas votre désir, hein, c'est le désir de nos cœurs, de pouvoir adorer, louer le Seigneur, vivre dans ce monde où effectivement il n'y aura plus ni de guerre, ni de, etc., de maladies, etc. C'est une réalité. Oui. Donc nous voulons toucher à cette réalité, et en fait, la vérité traduit la réalité. Donc vérité, réalité, c'est quelque chose qui est synonyme. La logique, alors la logique, c'est des étapes qu'on suit pour traduire la vérité. Et la logique de Dieu n'est pas celle des hommes. Et l'Église est en danger constant de se laisser pénétrer par des concepts du monde, hein, aujourd'hui, qui sont toujours des illusions. Vous avez vu vous-même à la pratique de votre devoir civique, qui consiste à choisir des présidents, qu'à chaque présidence, on est déçu. Parce qu'entre ce qu'il promet et ce qu'il fait, il y a une différence, et on s'en aperçoit après. Pourquoi? Parce qu'au contact de la réalité de la gouvernance, eh bien, c'est pas aussi facile que lorsqu'ils font des annonces de programmes pour lesquels vous élisez les personnes qui se présentent. Et cet exercice du pouvoir, eh bien, il est lié à tout le monde, parce que dans la vie, comme vous d'ailleurs, vous trouvez aussi des limites à ce que vous pouvez faire dans votre propre famille, dans votre propre vie. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc on est limité. Eh bien, c'est vrai pour tout le monde. Mais ce n'est pas vrai pour Dieu. Dieu, c'est celui qui crée toutes choses. Et c'est pour ça que lorsque nous exerçons la foi, nous pouvons atteindre des choses qui n'existent pas, mais qui peuvent exister par la puissance de Dieu. Donc la logique de Dieu n'est pas accessible et n'est pas la même que celle des hommes. Nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont été séduits par des subtilités de mensonges de l'ennemi. Voyez-vous, l'illusion, hein, l'illusionniste. L'illusion, c'est l'équivalent au mensonge. C'est souvent des très beaux mensonges, hein, mais ce sont des mensonges qui ne nous mènent pas dans la réalité, mais qui nous mènent dans l'illusion et qui nous déçoivent, qui nous frustrent, qui nous empêche d'atteindre ce que nous cherchons. Et du coup, cette illusion, ce mensonge, a amené nos premiers parents et nous-mêmes, eh bien, dans la désobéissance, dans le péché, dans la souffrance, dans la mort, qu'elle soit spirituelle ou physique. Et il a fallu que Dieu intervienne au travers de Jésus, qui était parfait, hein, qui a accepté de devenir notre sauveur, et qui ensuite Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Non seulement il a envoyé Jésus, mais il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à vivre dans cette réalité, dans cette vérité, aujourd'hui dans l'Église. Donc voyez, tout est grâce, tout vient de Dieu. Et dans le futur, ce que nous attendons dans le futur, eh bien, le plan que Dieu a prévu pour nous est de continuer à diriger l'histoire. Il continuera à diriger l'histoire, celle des hommes, celle des nations, celle de l'Église, celle du peuple d'Israël, jusqu'au retour de Jésus. Et ensuite, après, il jugera le monde et il établira son royaume sur la terre où justice et paix régneront. Donc tout au long de l'histoire, hein, l'histoire de l'humanité, eh bien, Dieu a été un paradoxe pour l'esprit humain. La logique de Dieu est voilée constamment à nos mentalités, à nos concepts, à nos pensées. L'évangile est voilé, comme on a lu tout à l'heure. Il est voilé pour ceux qui périssent. Quand on ne connaît pas Dieu, eh bien, effectivement, on ne peut pas accéder à l'évangile naturellement. Il faut une révélation. Il faut la révélation, parce qu'il faut passer au-dessus de ces difficultés de logique humaine, de compréhension humaine. Et c'est pourquoi c'est une grâce de Dieu. Et Dieu, parce que les incrédules, ceux qui ne croient pas en Dieu, sont voilés, les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous voyez, il y a un dessein maléfique. Le dessein maléfique, c'est que Satan, volontairement, il voile. Il voile les pensées des êtres humains. Et il les voile par l'illusion. L'illusion, c'est quelque chose de très... Je ne sais pas si vous avez déjà vu les illusionnistes. Voilà, c'est incroyable. Hein, vous vous dites, mais comment ça se fait? Vous êtes intrigué. Hein. Et donc l'illusion a quelque chose d'attirant. Vous voyez, beaucoup plus que la vérité, qui est simple, qu'il faut juste obéir à ce que Dieu dit. L'illusion, voilà, on a envie de voir comment il fait avec les cartes, comment il fait avec ses doigts, comment il fait. Vous voyez. Donc vous voyez, ça, c'est un caractère d'attraction en soi. Et c'est pourquoi l'illusion est dangereuse, parce que Satan, il sait comment nous attirer avec des choses. Et pour ça, il faut prier pour nos jeunes et les garder de ces illusions, parce que le monde est fait d'illusions, et en particulier avec tous les moyens modernes et virtuels maintenant que nous avons à disposition. Vous savez que le virtuel, par définition, c'est une illusion. Donc ça colle très très bien avec ce que veut faire l'ennemi pour nous faire tomber dans l'erreur. Le chrétien né de nouveau est appelé à se dépouiller de la vieille nature, parce que la vieille nature porte en elle ce désir d'illusion. Vous voyez, la vieille nature qui est tombée dans le péché aime l'illusion. Elle aime être charmée. Le charme, d'ailleurs, on dit. Hein. Mais le charme, c'est diabolique. Hein. C'est l'enchantement, c'est la sorcellerie, c'est tout ça. Vous voyez, ça nous fait rentrer dans un monde d'illusion. Et alors que Dieu, il nous dévoile, au travers des paradoxes de la Bible, il nous dévoile des choses qui sont réelles. Alors, une des clés, alors je reviens à l'interprétation de la Bible. Vous voyez, on avait dit dans le quadrilatère de Wesleyen, qui n'a rien à voir avec des mathématiques, hein, on dit quadrilatère parce qu'il y a quatre côtés, mais je dirais qu'il y a quatre éléments de la foi. C'est ça qu'il faut reconnaître. Quatre éléments de la foi. La première, c'est la révélation des Écritures. Dans la foi, hein, on a la révélation au travers des Écritures. Parce que, étant donné qu'on connaît la vérité, La vérité, on ne peut pas la connaître par nous-mêmes, puisque je vous disais, la plus grande sagesse, c'est de ne pas la trouver, tout en la cherchant. Alors que Dieu nous révèle la vérité, c'est-à-dire la réalité de ce qui nous entoure, aussi bien la création du monde que la finalité du monde, que ce que nous vivons, ce que nous devrions vivre, comment nous devrions vivre. Donc tout ça, c'est révélé par les Écritures. Et c'est pourquoi les Écritures, l'ennemi a toujours voulu détourner les Écritures de tout temps. Il a voulu soit les détruire, soit les détourner, soit les transformer, soit les modifier, etc. etc. Ça a toujours été son souci. C'est pour ça que garder les Écritures dans la pureté telles qu'elles nous ont été, c'est quelque chose d'important pour nous, d'être vraiment à cheval là-dessus, de garder les Écritures telles qu'elles sont. Mais pour ces écritures, il y a trois pieds, je dirais un peu comme un trépied, hein, qui contribuent à garder cette vérité des écritures. Hein. Et on l'a vu, c'est la tradition, c'est l'expérience et c'est la raison. Mais ce sont des contributions, ce ne sont pas des absolus, mais par contre, elles contribuent énormément à la vérité. Donc, une des clés, quand on parle des Écritures, hein, les Écritures, il n'y a pas que des choses faciles à lire, hein, il y a des choses faciles, ce qu'on appelle les histoires, la narration, les chroniques, tout ce qu'ils nous ont parlé, on aime beaucoup ces livres-là, où ils nous ont expliqué les histoires des rois, les histoires du peuple, les histoires de l'Égypte, etc. Voilà. Donc ça, c'est la narration, c'est pas trop compliqué à comprendre. Mais il y a d'autres livres, hein, comme la Genèse. Effectivement, on peut associer ça à des mythes et c'est très difficile. Donc il faut être instruit. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui nous aident à comprendre certains éléments de la vérité sans les déformer. Ensuite, les livres de la sagesse qui ne sont pas forcément... Vous voyez, le livre de Job, vous n'allez pas prendre un chapitre de Job et vous allez appliquer, je ne sais pas, le Job 35 ou 36 qui sont des répliques des amis de Job, hein, qui sont des réflexions, qui ne sont pas la parole de Dieu. Mais, donc, il faut un certain recul. L'évangile, bien sûr, c'est applicable, mais à l'intérieur de l'évangile, il y a des paradoxes. Jésus parle en paradoxes. Et là, c'est déjà plus compliqué. Donc pour bien interpréter la Bible, il faut tenir compte de cette notion de paradoxe. Nous constatons que la Bible a de nombreux exemples de paradoxes. Par exemple, croire que Dieu est un et qu'il est trois, c'est un paradoxe. Croire à la Trinité alors que Dieu est un, c'est un paradoxe. Et c'est pas évident de comprendre ce paradoxe. D'ailleurs, on en a parlé récemment, responsable de l'école du dimanche, quoi. C'est pour aider aux enfants à le comprendre, c'est pas évident. Mais le paradoxe, c'est pas synonyme de contradiction. C'est pas contradiction. Prendre en compte la réalité un paradoxe n'a rien à voir avec le fait d'être tiède. Par exemple, on pourrait dire Dieu vomit les tièdes, Apocalypse 3,16. On pourrait dire, si on prend une foi de paradoxe, c'est pas du tout être tiède. Au contraire, c'est être bouillant dans la foi. C'est être bouillant dans la foi, tout simplement parce que on est capable de comprendre des réalités plus profonde, parce qu'il y a des réalités faciles et des réalités plus profondes. Je vais vous lancer un défi qui n'est pas facile, mais certains sont capables de le relever. Dans vos groupes de maison, essayez de parler de la physique quantique. Il y en a qui savent ce que c'est que la physique quantique ? Ah, c'est bien. Jean-Gilles, il pourra vous l'expliquer, mais c'est dommage que tu ne sois pas dans un groupe de maison. Jusqu'à ces derniers temps, on a essayé d'expliquer la lumière. La lumière, c'est facile, hein, c'est le soleil qui donne la lumière. On n'a jamais réussi, jusqu'à présent, sans la physique quantique, à expliquer la lumière. Pourtant, la lumière, tout le monde en jouit. Tout le monde utilise la lumière. La lumière, ça échappe à la physique, toute simple, ou à la science physique aujourd'hui, parce que c'est complexe, C'est très complexe. Et il n'y a qu'avec la physique quantique qu'on l'explique. Parce que la lumière, c'est un mélange d'énergie et un mélange de matériaux, de particules. Donc c'est matérialiste et énergique. Et il n'y a que la physique quantique qu'on l'explique. Pour montrer que même les choses qu'on voit autour, ce n'est pas forcément toujours simple. Vous voyez, on peut les simplifier, mais ce n'est pas en simplifiant qu'on arrive à faire les choses. Par contre, dans quelques temps, là, déjà, ça va sortir, il y aura des ordinateurs quantiques qui vont sortir. Là, ils sont dans les laboratoires. Alors là, ça va pédaler 100 fois plus vite que les ordinateurs que vous avez en ce moment. Ils sont en train de les développer. Donc, vous voyez, des applications pratiques de cette réalité qu'on découvre, hein, que Dieu a créée. Que Dieu a créé. Pour montrer que c'est pas, voilà, de vouloir tout simplifier, c'est pas une solution, c'est pas la réalité, c'est une illusion. La réalité, c'est que c'est très complexe parce que Dieu est allé très loin dans sa création et on n'arrivera jamais à découvrir tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il est capable de faire. Et on est obligé d'avoir des outils, comme par exemple la physique quantique, maintenant pour arriver à maîtriser ces choses et à mettre à votre disposition, au grand public, dans quelques années, des ordinateurs quantiques ou simplement. D'un quart de millième de seconde, vous avez des informations que vous mettez quelques secondes à avoir aujourd'hui. Vous voyez, le paradoxe, la foi paradoxale, ça vous amène plus loin dans votre compréhension de Dieu, dans votre connaissance de Dieu, dans votre connaissance des choses de Dieu. Pour ne pas rester sur le seuil du simplisme, dans lequel vous allez forcément être happé par le monde aujourd'hui qui va chercher à détruire votre foi. C'est pour ça que je suis préoccupé à vous donner un certain nombre d'éléments, un peu plus de viande au niveau de la foi, pour que vous soyez équipés et que vous puissiez aussi garder vos enfants de toute l'illusion dans laquelle on est en train de tomber. C'est juste un exemple, mais il y en a d'autres que je citerai tout à l'heure pour les groupes de maison. Que ce soit la physique quantique. Et vous savez que certains charismatiques veulent rentrer dans la physique quantique sans même savoir le début de l'ombre du commencement de ce que c'est. Et là, on tombe aussi dans l'illusion. Éphésiens 2,8 dit que c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Je le relis, Éphésiens 2,8 dit, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et en même temps, Paul, c'est le même Paul, qui écrit dans Philippiens 2, par conséquent, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est un paradoxe. C'est deux choses contraires. D'un côté, il dit, voilà, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, il n'y a rien à faire. Vous acceptez. Et de l'autre côté, il dit par conséquent, travaillez à votre salut. Vous voyez, on est encore dans le paradoxe. Donc vous voyez, la notion de paradoxe se trouve très souvent justement dans des profondeurs dans lesquelles le Seigneur veut nous amener. Quand Jésus établit son Église dans Matthieu 16, et il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et un petit peu plus loin, il dit, si vous voulez me suivre, si vous voulez être mon disciple, il y en a qui veulent être son disciple, bien, il dit, prenez ma croix. Et celui qui veut trouver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie la trouvera. Encore un paradoxe, vous voyez. Parce que, en tant que disciple, nous sommes confrontés à quelque chose de plus, je dirais, plus complexe que simplement voilà, rester au ras des pâquerettes, aimer le Seigneur et tout ça. C'est parce que le Seigneur veut nous amener dans une profondeur de sa connaissance. Et c'est pourquoi nous devons creuser ces aspects paradoxaux. Alors, qu'est-ce que c'est un paradoxe ? Alors, moi-même, j'ai dû faire une recherche parce que j'ai jamais fait d'études. J'ai jamais aimé les études littéraires. J'étais très nul en grammaire. Donc, je suis obligé de m'aider soit de Michel ou des dictionnaires. Alors, j'ai découvert que paradoxe vient du latin doxa, qui, avec un préfixe, para. Alors, quels sont ceux qui connaissent le latin ? Ils le savent tout de suite. Moi, je ne suis pas latiniste, donc je suis... Il y en a qui peuvent tout de suite me dire ce que c'est un paradoxe avec ces deux éléments de latin, para et doxa. Quels sont les latinistes ici? Allô? Pardon? Alors, au contraire, oui, para, c'est contre, en latin. Mais je suis comme vous, hein, vous voyez, je vois qu'il n'y a personne qui fait de latin, à part Michel, elle n'a pas voulu lever la main. Donc, c'est contre. Et doxa, c'est quoi? Pardon? Pardon? Non, on fait de la devinette là. Doxa, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est la communication. Communication, c'est discours. Doxologie, doxa, etc. Le discours, voilà. Donc paradoxe, alors le doxa, voilà, paradoxe globalement, ça veut dire qui est contraire à l'opinion commune. L'opinion commune. Doxa, ce sont des opinions généralement admises sur lesquelles se fonde la communication. Quand on communique, on se fonde sur la doxa pour se comprendre. Okay? Mais quand on fait de la contre-doxa, donc paradoxe, en fait, on heurte la compréhension commune et c'est pour ça qu'on est perplexe. Vous voyez, je comprends plus, je comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est fait pour que nous creusions, que nous restions pas à la surface, que la parole de Dieu nous la creusions. Quand Jésus dit celui qui trouvera sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie la trouvera. Si vous cherchez pas, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident en première vue. Hein. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Et on peut comprendre facilement, celui qui accepte Jésus, il sera sauvé. Ok, ça, c'est du simple, voilà, il le faut aussi, parce que c'est la base. Mais en même temps, comme je vous le disais, la lumière, tout le monde s'en sert, hein, heureusement, parce que sinon on ne serait pas là. Et pourtant, c'est très complexe, au point qu'aujourd'hui, les scientifiques sont sur le point de trouver, mais avec une nouvelle physique qui s'appelle la physique quantique, qui est extrêmement complexe, avec en plus la relativité d'Einstein qu'il faut, voilà, parce que tout ça bouge dans tous les sens, l'espace-temps, etc. Donc vous voyez que quand on veut aller plus loin, dans la réalité, dans la vérité, c'est bien complexe. Et dans la foi, eh bien, c'est la foi paradoxale, en tout cas la compréhension des paradoxes qui nous permettent de saisir ce que Dieu. Et très souvent, les chrétiens, le christianisme a simplifié les choses. Pour des raisons, hein, on le ferait aussi à leur place, mais qui a fait deux camps, comme je vous l'ai dit. Un camp d'Occident et un camp de l'Orient. Les chrétiens d'Orient, les chrétiens d'Occident. Et parce que les uns ont simplifié en disant oh, c'est de la logique, et les autres ont dit c'est du ressenti, c'est de l'expérience en Orient. Vous voyez? Et quand on amène ces deux type de christianisme basé sur cette simplification, eh bien, on se heurte à des oppositions qui, en fait, font des schismes, parce qu'en 1054, c'est très précis, l'Église catholique a excommunié l'Église orthodoxe. C'était une Église, et l'Église orthodoxe, c'est assez simple, hein, ils sont venus avec une bulle papale et ils l'ont déposée sur au niveau du patriarche de Constantinople, vous êtes excommunié. Et du coup, ils ont répondu, ils ont fait une autre excommunication et ils sont allés à Rome et ils ont excommunié l'un l'autre. Voilà. Et depuis, on a cette séparation entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Ensuite, après, il y a eu d'autres excommunications, comme vous savez, etc. Vous voyez, l'homme aime bien excommunier l'autre parce qu'il ne pense pas comme ça. Alors qu'en fait, le paradoxe permet de réunir, de comprendre qu'effectivement, ce n'est pas l'un qui a raison contre l'autre. Mais c'est les deux qui ont raison en même temps. Les deux qui ont raison en même temps. C'est-à-dire que nous devons chercher Dieu avec une logique, c'est vrai, mais aussi avec le cœur, aussi par une expérience. Mais si nous cherchons Dieu que par une expérience sans la logique, eh bien notre expérience, vous le savez tous, hein, peut nous mener vers des drôles de conception de la vie chrétienne. Hein. Et donc il faut bien les deux. Et si on fait l'économie de ce paradoxe, c'est bien qu'on est tous un petit peu à chercher à simplifier tout. Hein. Ah ben, simplifier tout, simplifier la lumière, ok, mais vous n'avez pas trouvé les ordinateurs quantiques. Il y en a qui aiment bien les ordinateurs, mais ils sont basés sur une compréhension de la réalité. Et pareil, dans la foi, si nous cherchons à comprendre ce que c'est que ces opinions contradictoires, voilà, des opinions qui ne sont pas admises communément, hein, parce que Jésus s'adresse à nous en tant que personnes intelligentes qui devons chercher la foi profonde. Eh bien, nous n'allons rester qu'en surface et nous allons être emportés par le courant des illusions qui passent. Je vais vous donner un paradoxe psychique que vous allez certainement comprendre, d'une maman, hein, d'une maman qui se contredit. Il y a des mamans qui se contredisent ici ? Non. Aucune maman se contredit. Voilà. Alors ça, c'est encore un exemple pour les groupes de maison. Travaillez ça, et vous allez comprendre que le paradoxe, ça fait partie de la vie quotidienne. Hein, voilà. Une maman qui encourage son enfant à grandir et qui, par ses intonations, distille son désir de le voir rester bébé. Ah, il y en a qui disent oui. Il y en a qui... Vous avez compris le paradoxe ? Oui, où il est inscrit en nous. Hein ? Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, je le relis. La maman qui encourage l'enfant à grandir, parce qu'elle a envie de le grandir, et qui par ses distillations, que seule une maman sait faire, hein, papa ça se voit trop, elle distille son désir de le voir rester bébé. Ah, parce que voilà, il y a quand même quelque chose qui reste dans le ventre de la maman, hein, qui rappelle le bébé. Hein. Et il y a des enfants qui restent bébés jusqu'à 70 ans. Oh, ben plus. Il y a Michel, comme, qui était premier adjoint pendant 25 ans, il en a entendu pas mal à Saint-Martin. Et puis une maman, bah, toi tu la connais aussi, je ne sais plus laquelle c'est, qui avait 100 ans, je crois, et qui avait dit, oh, j'ai un fils qui est vieux. Il avait 70 ans, bien sûr, il était vieux. Mais elle n'était pas vieille. Elle avait 100 ans. Ah, c'est moche de voir un fils qui est vieux. Voilà. Oui, parce qu'en fait, lui, il était un peu impotent, et puis elle était... Pardon ? Il était cardiaque, voilà. Donc, ça lui pesait, hein, parce qu'elle était vaillante, et puis lui, il fallait prendre soin de son fils, qui a 70 ans, il est vieux, quoi. Vous voyez, les paradoxes se trouvent un peu partout dans notre vie quotidienne. On pourrait parler de cette maman dont je parlais, de dilemme, de choix difficile, vous voyez ? Quand on a un choix difficile, eh ben, on joue avec ses paradoxes. L'exemple, bien sûr, que j'ai pris tout à l'heure, qui est l'exemple de Jésus, de la vie de disciple, Matthieu 16, 24, où il dit, il faut trouver la vie et perdre la vie. Et il faut perdre la vie et la trouver. Alors, bien sûr, pour bien comprendre ce paradoxe, il faut nommer un peu les choses. Par exemple, il faut trouver la vie en soi. Si on trouve la vie en soi, effectivement, on va la perdre. Puisque la mort, il n'y aura plus de vie. Vous voyez ? La vie en soi. Donc, trouver la vie en soi, oui, on va perdre la vie en Christ. Puisque pour avoir la vie en Christ, il faut renoncer à la sienne pour accepter la sienne. Vous voyez ? Et si on perd donc sa vie en soi pour moi, je vais la trouver en Christ. Alors vous voyez, il y a cet échange qui se fait. Et c'est Jésus qui explique ce paradoxe en disant, s'il n'y a pas d'échange, c'est pour ça qu'à un moment donné, il dit aussi quelque chose de très violent. Hein, si quelqu'un ne renonce pas à son propre père, à ses frères, à ses sœurs, etc., si vous le preniez au premier degré, vous dites, bah, l'évangile, c'est terrible, ça divise les familles, c'est une secte et tout ça. Vous voyez, c'est dans cet esprit de paradoxe qu'il dit. Il dit, en tant que priorité, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Par contre, si vous servez Christ, vous allez encore plus aimer vos pères, vos frères, etc. Vous voyez, ce paradoxe, il explique la complexité de la vie, mais vous pouvez le comprendre que quand vous analysez et que vous méditez la parole. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole. En fait, le paradoxe, donc, vous voyez, contre ce qui est communément admis, eh bien, ce paradoxe traduit la complexité de la réalité des choses. Les choses ne sont pas si simples que ça, mais le Seigneur nous aide à les vivre dans la simplicité si on accepte de creuser ces paradoxes. Un théologien très très connu, que je ne citerai pas, mais qui a dit que l'homme a une destinée paradoxale. C'est-à-dire que l'homme, dans sa nature profonde, chaque homme sait qu'il y a un Dieu, même s'il ne le reconnaît pas. Il sait que voilà, c'est pas un objet, c'est pas un, que l'homme c'est pas un animal, que l'homme a un sens, tout ça, on le sait. C'est pour ça que dans notre nature imparfaite, eh bien, l'homme cherche à retrouver cette perfection qui était à l'origine, dans le jardin d'Éden, avant la chute. Il le cherche, mais sans pouvoir l'atteindre. Et c'est ça le paradoxe. Et on cherche quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. C'est pour ça que la sagesse humaine, la plus haute sagesse qui dit la vérité, on ne la trouvera jamais, ça explique ce paradoxe. Sauf que les hommes ne pourront jamais trouver la vérité par eux-mêmes. Pourtant, ils la cherchent. Oui. Alors qu'en Jésus, on peut la trouver simplement en rencontrant Jésus lui-même, qui est la vérité. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu se met à notre portée pour que nous puissions atteindre ce que nous cherchons sans le trouver par nous-mêmes, mais en faisant appel à lui. D'où le besoin de la prière, d'où le besoin de se confier en Dieu pour le recevoir. L'homme cherche une perfection qu'il ne peut jamais atteindre par lui-même, qui est dans sa nature. Et toutes les sociétés proposent une, ce qu'on appelle une échelle de perfection. Pourquoi on décrit, bon, franc-maçonnerie ou d'autres sociétés secrètes, tout simplement parce qu'ils cherchent la vérité. Ils cherchent la vérité, c'est des chercheurs de vérité. Et ils utilisent ce qu'on appelle l'échelle de Jacob. Hein, tous, ils sont dans l'échelle de Jacob. Hein. Vous savez, Jacob qui dormait sur un rocher et qui a vu les anges qui montaient, qui descendaient, et entre le ciel et la terre. Voilà. Eh bien, cette échelle est utilisée partout dans ceux qui cherchent la vérité, parce qu'ils pensent que petit à petit, on peut monter pour atteindre le ciel, alors que Jésus, lui, est descendu. L'homme veut chercher à monter, mais il n'y arrivera jamais. C'est pour ça que, quelque part, il prévient d'avance, on n'arrivera pas. Mais la sagesse, c'est de chercher. Bon, parce que nous, on dit, on a trouvé, parce que c'est Jésus est venu. C'est pour ça que Pilate dit à Jésus, mais quelle est ta prétention, toi, de trouver la vérité? Personne ne peut la trouver. Par contre, la grande sagesse, c'est de la chercher. Mais le problème, c'est que Jésus était la vérité. Il avait devant lui la vérité. Et là, on y accède par la foi. On accède en acceptant et en se soumettant et en s'humiliant devant Dieu. Là, c'est l'humilité qui donne accès à la compréhension de ce paradoxe. Ce théologien indique que l'homme a une destinée paradoxale, et je rajouterai qu'on y arrive par la foi paradoxale. Pour simplifier encore, si je puis, je dirais que la foi paradoxale, c'est une foi à 360 degrés. Voilà. Je ne pourrais pas simplifier plus, je ne pense pas, peut-être. Ayez une foi à 360 degrés. Oui. Une foi qui est juste ce que vous voyez devant. Hein. Vous lisez la parole et puis vous la fermez. Vous essayez de vivre dans le monde alors que vous êtes bombardé d'un tas de choses du monde qui vous orientent autrement. Vos pensées sont orientées autrement. En fait, vous ne pourrez pas rentrer dans les choses de Dieu profondément. Vous allez très vite être balayé. Mais il faut avoir une foi à 360 degrés. C'est l'image que je vous ai présentée dimanche dernier avec ce massif du, je sais pas si c'est dans les Alpes, où ils ont créé ce promontoire complètement en verre. Et vous rentrez dedans et vous voyez 360 degrés tous les trucs, ça doit être très très beau. Eh bien, c'est ça, la foi. Et c'est ça le quadrilatère de Wesley. Si le christianisme, si l'Église avait pu, depuis le départ, garder cette foi à 360 degrés, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je vous donne un exemple. La foi paradoxale nécessite la révélation des Écritures, l'éclairage de la tradition, vivifié par l'expérience et confirmé par la raison. Ces quatre éléments permettent de voir dans la foi à 360 degrés. Quand au XVIe siècle, l'Église était toute puissante, en tout cas en Occident, en Orient, il est toujours, hein, les orthodoxes sont toujours très puissants, puisqu'ils ont le pouvoir temporel et le pouvoir spirituelle, les patriarches, et même Poutine, quand il est venu, il avait l'intelligence pour gouverner, de se soumettre et de mettre en avant les patriarches à Moscou pour avoir l'Église avec lui. Mais en Occident, qui était un drame, l'Église voulait tout régenter. Voulait tout régenter en ayant une foi sur les Écritures, sauf que les Écritures, dans le catholicisme, il y avait les Écritures plus ce qu'on appelle nous les apocryphes, qui justifiaient un certain nombre de pratiques, dont les indulgences, dont les prières aux morts, dont, etc. Et la tradition était une tradition qui était équivalente aux Écritures. Dans le catholicisme, ce trépied-là, il a les Écritures et la tradition qui est équivalente à l'Écriture. Elle a la même valeur, la même force, la même autorité. Parce qu'ils prétendent que les Écritures sont écrites par des hommes. Donc, en fait, c'est la tradition qui a écrit, alors que les protestants disent que c'est Dieu qui a révélé les Écritures et la tradition, elle est humaine. La tradition, c'est en fait l'ensemble des doctrines de foi. On explique en extrayant des Écritures ce que je crois en Fils, je crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, dans l'Église, dans les dons, etc. Tout ça, c'est la tradition qui explique ce qu'il y a dans l'Écriture. Mais l'Église catholique est basée là-dessus. L'expérience, c'est pas ce qui manque. Hein, l'expérience, tout le monde fait des expériences, sauf qu'il faut les confronter aux Écritures. Et la raison, elle était très, très orientée. Et à l'époque, tout le monde pensait que tout tournait autour de la Terre. On appelait ça le géocentrisme. Tout tournait autour de la Terre. Et comme l'Église était toute puissante, elle faisait les lois. En fait, elle faisait les lois, puisqu'en plus, il n'y avait pas de parlement à l'époque, il y avait juste un roi qui éditait, il avait des conseillers, en général, c'était des cardinaux, pensez au cardinal de Richelieu, de Mazarin, etc., qui conseillaient les rois dans, en termes d'éthique et tout. Et donc, ils ont décrété que l'Écriture ne dit pas que le soleil tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés jusqu'à brûler Galilée sur un bûcher. Au nom que la science se trompe. Alors que malheureusement, la science ne s'est pas trompée. Et aujourd'hui, tout le monde sait que c'est le soleil, c'est la Terre qui tourne autour du soleil et pas l'inverse. C'est héliocentrique. Aujourd'hui, ce n'est pas évident. Pas évident. Mais le chrétien qui ne veut pas accepter cette foi paradoxale, il se croit au nom d'une spiritualité supérieure être capable de dicter des choses au monde. Et la catastrophe, c'est qu'aujourd'hui, on a des Français qui ne veulent plus rien savoir de la religion à cause de ça. Parce qu'il y a eu trop de bêtises, il y a eu trop de choses qui ont été dites totalement fausses, parce que la science ne fait que découvrir ce que Dieu a fait. Donc c'est aussi la foi dans le visible. Et donc il faut laisser la science aussi dire ce qu'elle est, et nous, on glorifie le Seigneur au travers de la science. Il y en a certainement beaucoup qui peuvent être reconnaissants à la science pour avoir été guéris, sinon ils ne seraient pas là. À vous, là, je suis en train d'écouter des enseignements sur le surnaturel, etc. Eh bien, un des pasteurs ne serait pas là, il a été paralysé, il a été, je ne sais pas encore quoi. Et grâce au progrès de la science, maintenant, il vit. Et sinon, il ne pourrait pas enseigner en faculté de théologie aujourd'hui. Et nous sommes tous là. La science, elle glorifie Dieu lorsqu'elle découvre tout ce que Dieu a fait. C'est quand elle prétend que Dieu n'existe pas, mais ça, ce n'est pas de la science, c'est de la philosophie. C'est pas de la science, il ne faut pas tout mélanger. Mais voyez, au nom des Écritures, au nom de la tradition, l'Église s'est complètement plantée et aujourd'hui on en paye le prix, malheureusement. Mais je vais vous dire une chose, c'est qu'à l'époque du XVIe siècle, Luther et Calvin étaient dans la même... C'est pas parce qu'ils étaient protestants, ils croyaient aussi au géocentrisme. Et si les catholiques n'avaient pas brûlé, ce seraient les protestants qui auraient brûlé Galilée. Pareil. Donc il faut faire très attention. Ne soyons pas au-dessus de tout le monde, parce que nous sommes chrétiens. Restons dans l'humilité, et les paradoxes dont je vous parle, qui ne sont pas des évidences, mais qu'il faut creuser, eh bien, doit faire partie de notre humilité. Et que la raison aussi doit se soumettre aux Écritures. Il ne doit pas prétendre dominer les autres. Est-ce que le message, vous le voyez derrière? Okay. Discutez de ça dans vos groupes de maison. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut creuser derrière tout ça. Mais la foi consiste à voir la réalité, donc la vérité, à 360 degrés, tout autour. Et ça, ce trépied-là, vous donne les 360 degrés de la foi. Et qui permettent de creuser des passages paradoxaux, qui ne sont pas évidents, à première vue, mais qui vous permettent d'ancrer votre foi dans la vie. Ça, ça vous donne de pouvoir ancrer votre foi dans toute la réalité du monde, telle qu'elle est, et pas telle que vous la voyez, ou telle que vous, vous l'entendez. Hello? Pardon? Tu veux dire quelque chose? Michel va illustrer.
Oui, je pense que quand on lit la Bible, il faut penser qu'elle a été écrite dans une culture. Et c'était une culture qui aimait énormément les devinettes. En anglais, c'est riddles, je ne sais pas exactement la traduction, c'est vraiment les... Oui, c'est des devinettes, en fait. Et la culture grecque aimait énormément ça. Et je vois que, visiblement, les Hébreux aussi, ça vaudrait le coup d'ailleurs de demander à des rabbins, ce besoin de poser les choses de façon à faire réfléchir les gens. Parce que le but de ces paradoxes, j'insiste là-dessus parce que, André l'a bien expliqué, on rencontre ça quand on lit la Bible, même les évangiles, hein, celui qui perdra sa vie, etc. On se dit, mais pourquoi il a fait ça? Alors vous remarquerez que Jésus parfois dit à ses disciples, bon, j'ai raconté une parabole au peuple, mais maintenant à vous, je vais vous expliquer. Vous avez remarqué, hein, quand vous lisez l'évangile, vous voyez ça de temps en temps. On voit aussi Jésus dire, oui, ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Enfin, je résume. Parce que ce que Dieu veut, c'est très curieux ça dans la Bible, c'est quelque chose qui a attiré mon attention il y a longtemps, c'est qu'on cherche. Dieu aime les chercheurs. Les gens qui ne se contentent pas d'une lecture superficielle, mais qui cherchent, qui réfléchissent. Le but de tous ces paradoxes, c'est ça. C'est dire, mais attends, Seigneur, tu n'as pas voulu dire ça. Tu n'as pas voulu dire qu'il faut haïr mes parents quand même. Oh. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire? Et alors on réfléchit, on lit d'autres passages, on pèse un peu les patates, on réfléchit. Ah, voilà, c'était ça. Et c'est là que, quand vous lisez les psaumes particulièrement, on lit régulièrement, « Je médite, Seigneur, ta parole. » Ben oui, c'est ça, méditer. C'est dire, « Non là, je ne vais pas prendre ce verset comme ça, c'est clair qu'il voulait dire autre chose. Donc je vais le comparer à deux ou trois autres versets. Je vais le comparer à deux ou trois autres textes. » Et là, ça se dégage, ça nous saute à la figure. Et c'est très agréable d'ailleurs, ah mais oui, voyons, quand on met tous les passages côte à côte, on y voit clair. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Hein. Ce n'est pas la méditation transcendantale. Ah, voilà. C'est important de noter ça. Méditer la parole de Dieu, c'est faire ce petit travail, de dire, oh là là, là il m'a posé une devinette, là je ne vois pas trop où il va. Alors je vais chercher. Et je ne vais pas chercher dans ma tête, dans ma logique, mais je vais chercher dans différents textes de la Bible que je vais mettre côte à côte. Et là, quand on les met tous côte à côte, oh, c'est comme un morceau de puzzle, hein. On les met, on les ajoute, ah, l'image devient claire. Et donc je vous invite à faire ça quand vous lisez la Bible dans la semaine, moi je suis toujours dans le pratico-pratique, hein. Vous avez un texte qui vous choque, il y en a des textes qui choquent dans la Bible, ben, tant mieux, cherchez tous les textes qui disent la même chose. Et puis mettez-les côte à côte, réfléchissez, vous allez voir, c'est ça, méditer la parole de Dieu. Hein. C'est pas avoir une attitude... Non, c'est vraiment travaillé et c'était une culture, hein, c'était la culture grecque, c'était la culture hébreu aussi, de travailler le texte comme ça en réfléchissant qu'est-ce que l'autre veut dire. Et ils faisaient exprès, les rabbis et les philosophes grecs aussi, hein, faisaient exprès de poser des devinettes comme ça aux gens pour les faire réfléchir, pas pour les embêter mais pour les faire réfléchir. Et si on réfléchit de cette manière en lisant la parole de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce texte qui me choque, vous allez voir, c'est passionnant. Voilà. Ça, c'est l'application pratique pour cette semaine.
Alors là, je donne un certain nombre de cas pratiques qui vous pourrez étudier dans vos groupes de prière qui montrent des paradoxes. Le paradoxe entre la nature et la surnature, au surnaturel, au supranaturel, au supernaturel, au-dessus, il y a des rapports qui ne sont pas évidents. La grâce et les œuvres, on l'a dit tout à l'heure. La foi et les œuvres. Luther a voulu supprimer l'épître de Jacques parce qu'il parlait des œuvres, parce que ça le gênait, dans la mesure où il était en train de contrebalancer la théologie catholique des œuvres. Mais les deux sont là, c'est un paradoxe. Le royaume de Dieu, il est déjà là, mais il n'est déjà pas encore là. C'est-à-dire, il est là dans le ciel, Jésus règne, il règne déjà, okay, mais sur la terre, c'est le déjà pas encore. Or, les chrétiens en général, et aujourd'hui les charismatiques, voudraient que ce soit le déjà là. Voyez, parce que c'est plus simple que de vivre dans un paradoxe. On vit dans une simplicité, mais qu'en fait, c'est du simplisme qui vous mène droit au mur. La volonté de Dieu et la volonté de l'homme, ben, les deux. Là aussi, c'est une bagarre de chrétiens entre le libre arbitre, entre Érasme et Luther. Ce sont des bagarres constantes entre Augustin et Pélage. Pendant 2000 ans, on se bagarre là-dessus. Voyez, on se bagarre sur des paradoxes qu'il faut accepter et pas se bagarrer. Donc ça, c'est une bagarre constante. Jésus est Dieu et Jésus est homme. Vous comprenez ça? C'est un paradoxe. L'action du Saint-Esprit et l'action de l'homme. Voyez, donc là, vous avez matière à creuser. Dans vos cercles pour réfléchir à l'ensemble de ces paradoxes. Le paradoxe est un système de pensée inconfortable, je l'avoue, inconfortable, mais qui laisse la vie se manifester dans toute sa force. Et là, je vous renvoie, là, j'ai commandé pas mal de livres de Christian Schwartz pour vous les donner, parce que je pensais qu'il y avait plus de personnes qui l'avaient déjà. Christian Schwartz explique beaucoup cela dans La Nouvelle Expérience de Dieu, où il montre que dans la nature sont inscrites la pensée de Dieu, sont inscrites. Dieu a signé dans la nature sa personne, qui il est dans sa création. C'est lui qui l'a créé. Eh ben, dans sa création, vous voyez la personnalité de Dieu, qui est Dieu. Et dans la création, il y a toujours deux pôles opposés. C'est deux pôles opposés, masculin, féminin, il y a les charges positives, les charges négatives, et ça crée de la vie. S'il n'y avait pas ces pôles-là, il n'y aurait pas de vie. Voilà. C'est tout. Donc la vie, si vous voulez de la vie, il faut accepter ces éléments paradoxaux et faire avec. Vous voyez, si vous restez dans le simplisme, ok, c'est votre choix, mais vous allez passer à côté de la vie. La vie, c'est justement l'union de choses contraires qui ne sont pas évidentes a priori et qui produisent la vie en abondance. Et c'est donc le thème de cette bipolarité de Christian Schwartz et qui montre aussi qu'on peut s'unir entre les chrétiens. Nous, charismatiques, on peut être unis avec des non-charismatiques parce que justement, on met en œuvre ces deux choses qui sont l'amour de la parole et l'amour des dons et des manifestations du Saint-Esprit. Vous voyez, la pensée paradoxale est essentielle à notre vie spirituelle pour comprendre la Bible et connaître la vérité. Et il faut intégrer le paradoxe dans notre lecture biblique. Alors on va prier. Juste un dernier mot pour dire que la pensée illusoire, donc de l'ennemi, illusoire de l'ennemi, c'est ce qu'on appelle la pensée ésotérique. Ésotérique, ça veut dire une connaissance supérieure. Donc il vous aide, il vous donne une connaissance, soi-disant, une connaissance ésotérique, qui vous emmène dans l'illusion. Et lui, il unit les contraires. Il n'accepte pas les paradoxes, il les unit. Par exemple, les êtres, pour eux, c'est androgyne. Alors que pour nous, l'homme et la femme restent l'homme et la femme. Et donc, ouais. Et tout cela, donc, c'est une illusion. Donc, il simplifie, soi-disant, les choses en unifiant les paradoxes. Hein, et ça, c'est l'esprit de Mercure, qui domine en particulier sur la France, qui est d'unir les choses pour une nouvelle simplification. Mais en fait, si on veut que la création soit la vie en abondance, et bien ces paradoxes restent et demeurent. Et je vous encourage à les accepter. à les chercher, à les découvrir, à les creuser. Et là, vous ferez des progrès spirituels extraordinaires, parce que vous n'allez pas rester assis entre deux chaises en attendant que le temps passe. Vous allez défier effectivement ce que Dieu a mis devant vous. Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie et tu vivras. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui n'est pas accessible, c'est vrai, à notre sagesse. Et tu as défié cette sagesse, Seigneur, en la traitant, Seigneur, de nulle et non avenue, parce qu'elle n'a pas permis de découvrir le Seigneur de gloire quand il s'est manifesté. Seigneur, quand il s'est manifesté, tous ceux qui étaient des chercheurs de vérité, comme Pilate et d'autres, eh bien, Seigneur, ils se sont heurtés à ces paradoxes qu'il fallait accepter, qu'il fallait intégrer. Et ce n'est pas une logique simple, c'est une logique complexe qui, en fait, intègre la raison et l'expérience, qui intègre la révélation et la connaissance scientifique des choses, Seigneur, que nous acceptons comme étant créées de toi. Seigneur, toutes ces choses, nous voulons y pénétrer davantage et donne-nous à les creuser, Seigneur, dans ces groupes de maison, dans ceux qui n'en font pas partie, qu'ils puissent aussi, Seigneur, faire ce travail, afin que notre foi soit basée sur le roc. Que notre foi, Seigneur, soit fondée en toi et qu'elle ne puisse pas être ébranlée, Seigneur, par les choses de ce monde qui vont d'illusion en illusion et qui nous entraînent souvent à penser comme le monde. Seigneur, donne-nous d'être préservés du monde, mais Seigneur, tout en étant dans le monde, Seigneur, que ta grâce nous accompagne et que nous puissions être vainqueurs, Seigneur, avec toi et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.